France Musique. Tour de chant, Martin Pennet.
Aujourd'hui, les chansons de Pierre Macorlan, troisième partie. Comme nous l'avons vu au cours des deux premières émissions de cette série, les chansons écrites par Pierre Macorlan sont intimement liées à ses expériences de jeunesse et à son univers romanesque. Écrites en 1951, « La fille de Londres » et « La chanson de Margaret » sont les deux chansons les plus renommées de Macorlan et comptent chacune une bonne dizaine d'interprètes, surtout des femmes, qui les ont marquées de leurs différentes personnalités. On a donc l'embarras du choix et je ne peux résister à l'envie de compléter le panorama de la précédente émission reliant Germaine Montero, Marie Dubas et Barbara avec cette fois Monique Morelli et Catherine Sauvage que nous retrouvons sur la scène de Bobino en février 1968.
C'est rue de la Crique que j'ai fait mes classes au Havre dans un star tenu par Chloé. C'est à Tampico qu'au fond d'une impasse j'ai trouvé un sens à ma destinée. On dit que l'argent c'est bien inodore, le pétrole est là pour vous démentir, car à Tampico, quand ça s'évapore, le passé revient, qui vous fait vomir. Oui, j'ai laissé là mes joues innocentes, oui, à Tampico, je me suis défleuri. Je n'étais alors qu'une adolescente, beaucoup trop sensible à des tas de profits. Les combinaisons sont pas toujours bonnes, comme une vraie souris. J'ai fait des dollars. Dans ce sale pays où l'air empoisonne, la marijuana vous fout le cafard.
Évelyne Baron, directrice du musée départemental de Seine-et-Marne à Saint-Cyr-sur-Morin, qui conserve un fonds important sur Pierre Macorlan, analyse le thème qui revient régulièrement dans ses chansons, celui de sa vision de la femme.
Oui, bah comme dans ses livres en fait. Hein. La figure de la femme, notamment à travers la figure de la prostituée. Enfin, de toute façon, ces personnages sont des losers. Donc, sont des gens qui n'ont pas de chance dans la vie. Donc, les femmes comme les autres. Donc c'est soit la femme qui attend son homme qui est parti à la guerre, soit la prostituée comme dans le Quai des Brumes d'ailleurs, voilà. Et il y a des allers-retours d'ailleurs entre les personnages féminins de ces livres et les personnages qui réapparaissent dans ces chansons. Et certaines paroles ont été modifiées à plusieurs reprises pour les masculiniser ou les féminiser. Il y a des premières versions où c'est un homme qui parle et puis ça devient une femme. Très vite, forcément, puisque c'est des interprètes féminines qui les ont chantées, quoi. Et puis c'est toute une époque. C'est une époque aussi de personnages féminins, voilà, qu'on retrouve dans les films, hein, qu'on retrouve dans Le Salaire de la Peur. Enfin, par exemple, entre la chanson de Margaret et Le Salaire de la Peur, je trouve qu'il y a un vrai écho, en fait.
Un coq shanghaïé, un soir de folie, a pris mon avenir comme un beau cadeau. Il a dit, petite, il faut qu'on se marie. Tu seras la fleur d'un joli bistrot. De tels boniments démolissent une femme. Je vivais déjà derrière mon comptoir. Les flics de couleur, me disait madame. Bref, je gambergeais du matin au soir. Mon Dieu, ramenez-moi dans ma belle enfance. Quartier Saint-François, au bassin du roi. Mon Dieu, rendez-moi un peu d'innocence et l'odeur des quais quand il faisait froid. Faites-moi revoir les neiges exquises, la pluie sur Sanvic qui luit sur les toits. La ronde des gosses autour de l'église. Mon premier baiser. Sur les chevaux de bois.
Macorlan, c'est censé ses mémoires. Macorlan, tout ce qu'il a écrit, c'est tout ce qu'il a vu. Alors, toutes ces chansons, moi, qu'il connaissait depuis toujours, puisqu'on est du même pays. Eh bien, toutes ces chansons, ce sont tous ses souvenirs. Et j'ai connu deux, trois de ses filles, comme ça. Par exemple, Margaret, qui était partie en Amérique du Sud, qui avait suivi un type, qui l'avait laissé là. Elle était dans un bistrot, elle essayait de se faire de l'argent pour avoir son ticket de retour qu'elle n'a jamais eu. Elle est morte là-bas, tant picot. Mais Macorlan prenait de ses nouvelles. Et un jour, j'étais là quand un officier de marine est venu, qu'il venait le voir tout le temps, qu'il lui apportait du rhum ou je sais plus quoi, de là-bas, qu'on ne pouvait pas trouver. Et qui lui a dit que Margaret commençait à être au bout de son rouleau, qu'elle était vieille et qu'elle avait bien... C'était plus comme avant, enfin... Puis après, il a appris qu'elle était morte.
Comme l'évoquait Monique Morelli en 1980 sur France Culture, Pierre Macorlan a d'abord utilisé la chanson pour illustrer nombre de ses romans de l'entre-deux-guerres, puis l'a finalement choisi après la guerre comme mode d'expression pour raconter ses mémoires. Une ébauche de la chanson de Margaret figure ainsi sous le titre « Nelly de Tampico » dans son roman de 1930 « La tradition de minuit ». Ces récits fondés sur des réalités vécues relèvent cependant du procédé littéraire et du romanesque. Ils s'inspirent d'un personnage qu'il a connu et grossissent ses traits pour bien le camper, ce qui entraîne un décalage avec la réalité, comme chez Blaise Cendrars à la même époque. Cette démarche nourrit une notion que Macorlan a théorisée à partir des années 20, le fantastique social, un concept à la fois réaliste et poétique qui mêle notamment le cadre urbain, les bas-fonds, l'ombre, les apparences mouvantes, les héros équivoques ou dangereux, l'aventure, le destin funeste, la crainte de la modernité, et qui habite l'ensemble de ses chansons. En 1964, Macorlan évoque avec le journaliste Max Crosset les sources de son inspiration.
Quels sont les principaux thèmes de vos chansons ?
Oh, c'est ce que j'ai vécu, c'est ce qu'il y a de plus direct, c'est mon art le plus réaliste, la chanson.
Et ce sont vos souvenirs aussi?
Alors, je suis dans toutes mes chansons. Si je ne suis pas le héros, c'est pour moi qui ai assassiné un matelot ou pas, dans la fosse à Nantes. Pas du tout, du tout, du tout. Je connaissais la maison. Le lendemain, je suis venu là. La patronne m'a dit, tu sais, c'en est passé de belle hier. Ah, il y a un tel qui a été reçu un coup de couteau dans les épaules, là. De Steur qui était à bord d'un charbonnier hollandais. Oh, quelle histoire, quelle histoire. J'étais dedans.
Qu'essayez-vous de transposer dans vos chansons? Uniquement votre expérience humaine ou quelque chose de plus?
Oh non, mon expérience humaine, c'est tout. Mes chansons ne sont pas plus didactiques que mes livres.
Pas de message?
Oh, pas du tout, du tout, du tout. Oh, mais pas, ça ne me vient pas l'idée, le message. Je ne m'adresse pas aux gens pour leur donner des conseils, j'ai horreur des conseils. Au moins, la donner, je ne les ai jamais suivis. Alors vous pensez bien que je peux en donner aux autres.
Le recueil « Chansons pour accordéon », publié en 1953, regroupe les 16 premiers textes de Macorlan, mis en musique pour la plupart par l'accordéoniste Marceau à partir de 1949. Il contient en particulier les chansons de soldats et les chansons de Méville que nous avons largement évoquées dans les deux premières émissions de cette série. Un second volume de 32 textes paraîtra en 1965, intitulé « Mémoires en chansons », réunissant tous ceux que Macorlan a écrits depuis 1953. Ceux-ci ont trouvé différents compositeurs et de multiples interprètes, quasiment toutes féminines. Dans ce recueil, Mémoires en chansons, on trouve les trois derniers textes mis en musique par Marceau, comme Ça n'a pas d'importance, une chanson inspirée par la ville de Nantes, que Germaine Montero a enregistrée en 1956 et chantée lors de son unique passage à l'Olympia en novembre de la même année.
Pierre Macorlan et Victor Marceau, Ça n'a pas d'importance. Quand Jean-Marie de Nantes revint de la Trinité, il déposa son sac aux pieds de son hôtesse, dans un bar pavoisé par toutes les promesses, le bistrot de Simone à l'autre bout du quai. Qui donc a entendu cette vieille histoire-là? Qui donc l'a racontée tout bas de porte en porte, chez Daisy, chez Simone et chez Encarnita? Qui l'a confiée au vent de la rue morte? Simone aime les matelots aiment qui les aime, et moi je peux penser de même, car c'est là mon moindre défaut. Mais si la mer plaît aux Bretons, c'est qu'elle les tient en son giron, et tant pis pour qui mal y pense, ça n'a pas tellement d'importance. Un un homme qui revenait de Gibraltar pour France avait dit à Simone, on ira en Afrique, à Zanzibar au lieu de boulotter des briques. Je te couvrirai d'or qui vaut mieux d'argent. Tu reviendras à Nantes quand il en sera temps, dans le jour enchanté de notre indépendance. Quant à ton homme Simone, c'est une affaire de sang, et ça n'a vraiment pas une telle importance. Simone aime les matelots aiment qui les aime, et moi je peux penser de même, car c'est là mon moindre défaut. Mais si la mer plaît aux Bretons, c'est qu'elle les tient en son giron, et tant pis pour qui mal y pense, ça n'a pas tellement d'importance. Simone ne sut jamais le vrai mot de la fin. Les quarts de la police sonnaient partout l'alarme. Les filles jacassaient au milieu du vacarme. Et pendant quelques jours, ce ne fut qu'un refrain, à peine chuchoté dans tous les clandestins. Un refrain qui n'était qu'un souvenir de bagarre entre le gars de Nantes et l'homme du destin, au moment historique où les couteaux s'égarent. Simone aimait les matelots aiment qui les aime. Incarnita français de même, moi je vais me tirer au plus tôt. J'irai me crêcher à Meudon, devant la Seine et ses chansons, pour prendre un bon coup d'innocence, et rien n'aura plus d'importance.
C'était donc Germaine Montero que j'avais interviewée en 1998 pour France Culture.
Est-ce qu'on pourrait parler un petit peu des compositeurs qui ont travaillé sur ces chansons-là ? À commencer par...
C'était surtout...
Marceau ?
Marceau. Ah oui, c'est lui qui a fait... À mon avis, c'est lui qui était le plus dans l'atmosphère de Macorlan. Ensuite, bon, il y a eu Georges Vamparis qui en a fait quatre. Bon, puis il y a eu Philippe Gérard, que je vais présenter, qui a continué. Voilà, c'est tout.
Et ici, il y a eu Christiane Verger.
Bon, entre-temps, il y a eu Christiane Verger, oui, qui a remarquablement... Ah oui, la chanson de Bagatelle, par exemple, c'est remarquable ce qu'elle a fait.
Voici les pleurs d'un jeune accordéon, le long des quais de la Java fleurir, pour les loisirs des chalands de Paris. C'est un des ponts de la mélancolie. Tendre chanson des merles de Grenelle, ceux de la rue des beaux petits pieds nus, ces bagatelles et ces filles mortelles, ces Billancourt et ces chinoises inclus, ces bagatelles et ces filles mortelles, ces Billancourt et ces chinoises inclus. Voici le mai du muguet blanc annuel qui refleurit de fenêtre en fenêtre, probablement jusqu'aux portes du ciel, qu'il vaut bien mieux ne pas trop méconnaître.
Les chansons de Pierre Macorlan ont séduit au fil des ans les plus magistrales interprètes de son temps. L'aventure a commencé en 1950 avec Lordiana, qui a enregistré les six chansons de Soldat, mais ce beau moment de l'histoire de la chanson est resté sans lendemain. Dès 1951, c'est Germaine Montero qui a pris le relais pour répondre aux souhaits de Macorlan en participant à la série d'émissions La chanson de mes villes, et puis avec d'autres œuvres de l'écrivain, telles La chanson de Bagatelle, dont nous venons d'entendre la version originale en 1955. À partir de 1958, la quasi-exclusivité de Montero sur ce répertoire est remise en question par l'arrivée d'une interprète de caractère et plus jeune qu'elle, Monique Morelli, qui choisit quatre des chansons de Soldat et va voir l'écrivain. Il accepte alors volontiers de préfacer le premier disque 45 tours qu'elle enregistre en 1958 chez Ducretet Thompson, intitulé « Souvenirs de caserne ». 4 ans plus tard, Monique Morelli consacre à Macorlan tout un disque 33 tours 25 cm, édité chez Le Chant du Monde, où figurent deux des ultimes compositions de Marceau, Au tapis franc et Les progrès d'une garce. Cette dernière chanson est inspirée par les séjours que l'écrivain fit à Londres durant sa jeunesse et qui l'ont fortement marqué. C'est ce que souligne Luc Berrymont en 1971 lorsqu'il reçoit Morelli dans sa fameuse émission « La fine fleur de la chanson française » sur France Inter.
J'ai l'impression que c'était un milieu extrêmement pittoresque, extrêmement coloré là aussi. C'était un peu comme les casernes, il y avait beaucoup de...
Alors, il y avait les bas-fonds de Londres hein, qui ont toujours attiré Macorlan d'une façon insensée. Londres pour lui c'était son mystère là, qui vraiment le faisait, le remplissait de joie quand il commençait à parler des mystères de Londres.
Et vous croyez que les progrès d'une garce, par exemple, que vous chantez, c'est une chose qui a été un peu inspirée de ça?
Oui, enfin, ça a été inspiré par des personnages d'un roman anglais.
Écoutez la sombre histoire d'une fillette aux yeux doux qui s'auréola de gloire à la santé des filous. Que ceux-ci servent d'exemple aux libertins farfelus qui s'en vont prier au temple de la perfide Vénus. Le bel ange des familles ne bénit pas mon berceau. Quand je fus petite fille, je vécus comme un pourceau. Ma conduite scandaleuse attristait tout un chacun. Je devins entremetteuse au moment de mon déclin. Mais avant que de prouesses, de Sceaux jusqu'à Poplar, avec Harriet la négresse et les enfants du hasard, avec ce Milord obèse qui but de la morora, des mains de pâte irlandaise dans un verre de moka, et j'appris le jeu classique chez Goetby de mes frères. Une vieille aux yeux lubriques, mais qui n'en avait pas l'air. Je connus une cohorte de gentlemen amoureux, tel que le diable l'emporte, Monsieur Fenn et ses aïeux. On lui passa une corde graissée autour de son cou. Il cria miséricorde, l'écho répondit coucou. Tout cela est bien minable, je n'en tirai point profit. Je devins plus détestable en me gorgeant de whisky.
J'aimerais, Evelyne Baron, qu'on parle aussi de la jonction avec les musiciens, qui d'ailleurs sont toujours des accordéonistes, pour la mise en musique de poèmes de Pierre Macorlan.
Alors c'est vrai que ça c'est très important parce qu'il y a, un peu plusieurs périodes en fait. La première période c'est Marceau, V. Marceau, hein, Marceau Verschuren, qui est un accordéoniste du Nord, qui était très réputé pour la force de son jeu. Hein. On disait toujours que quand il jouait à l'accordéon, on avait l'impression que c'était une fête foraine entière qui jouait. Et donc ça c'est la première vague de poèmes mis en chanson et en musique. Il avait une manière de travailler parce que Macorlan lui-même déchiffrait, enfin jouait un peu à l'accordéon. Il avait horreur qu'on y fasse allusion d'ailleurs parce qu'il avait conscience de ce que c'était qu'un très bon accordéoniste. Mais ça lui permettait de déchiffrer les mises en musique que Marceau lui envoyait. Donc Macorlan lui envoyait un texte, Marceau lui renvoyait une composition. Et après ça s'ajustait voilà, dans un aller-retour entre deux. Là on sait très bien comment il travaillait avec lui. Donc ça, c'est plutôt la période des premières chansons qui sont lancées par Lord Diana et ensuite reprises par Germaine Montero. Mmh. Ensuite, on a un autre musicien qui apparaît, c'est Lino Leonardi, qui était le compagnon de Monique Morelli. Ils se connaissent à partir de 57, quand Macorlan rachète un appartement rue Constance à Montmartre. Et là, il rencontre Henri Landier, hein, qui est un peintre installé à Montmartre également. Henri Landier a illustré des chansons de Macorlan qui s'appellent « Les chansons de la vieille lanterne ». Et Henri Landier le présente à Monique Morelli. Et donc ensuite, Monique Morelli sera liée à Lino Leonardi et vont faire des chansons ensemble. C'est un accordéoniste, mais très différent de Marceau, avec un jeu beaucoup plus subtil, moins populaire dans son accent, on va dire. Ça donne des chansons qui ont un ton complètement différent.
Tour de chant, Martin Penet, France Musique.
En pénétrant dans la ville morte, je tenais Margot par la main. Un éternel petit matin nous apportait sa lumière morte. Nous allions de ruine en pétrin dans les rues, de porte en porte. Ce qui avait été des portes s'ouvrait sur d'étranges confins. Je tenais ma femme par la main dans les rues,
de porte en porte. Main sur main, nous avons trouvé, éparpillés dans la poussière, les belles chansons roturières qui recouvraient les vieux pavés. Des airs bien connus de caserne se joignaient à nos intentions et fleurissaient une lanterne. Chanson de charme d'un clairon qui fleurissait une lanterne dans un rêve de garnison.
La ville morte, mise en musique par Lino Leonardi, figure toujours sur le même 33 tours 25 cm de 1962, Monique Morelli chante Mac Orlan. Outre Marceau et Leonardi, les chansons de l'écrivain vont également séduire de nouveaux compositeurs, qui ne sont pas eux-mêmes accordéonistes, mais plutôt de solides formations classiques. L'un des premiers est Georges Vamparis, qui intervient brièvement pour mettre en musique quatre textes regroupés sur un disque 45 tours gravé par Germaine Montero. Tous deux viennent présenter leur opus dans l'émission Avant-première en novembre 1958.
Ce que je voudrais demander à Georges Vamparis, c'est comment il a réagi au moment où on lui a proposé de mettre des poèmes, voyez-vous, j'allais dire des poèmes, mais en fait ce sont des poèmes de vous en musique.
Lorsque Germaine Montero est venue me trouver, elle m'avait apporté une seule chanson. C'est d'ailleurs celle qui passe à cette émission, qui s'appelle « Il aurait pu ». J'ai donc fait cette première chanson, et Mac Orlan est venu chez moi l'entendre. Et quand il l'a entendu, il m'a dit « Mais c'est pas une, en effet, qu'on va faire, on va en faire trois autres. »
Mais enfin, il y a un univers, Mac Orlan, et vous le savez mieux que quiconque, Germaine Montero.
J'ai toujours été attirée par les beaux textes. Et évidemment, lorsque Mac Orlan m'a soumis un texte, j'ai toujours dit oui. Et en réalité, les chansons de Mac Orlan entrent dans la catégorie des disques, que j'appellerais discothèque, c'est-à-dire ça deviendra aussi une anthologie, Pierre Mac Orlan.
Et la chanson de ce soir s'appelle plus particulièrement Germaine Montero ?
Il aurait pu.
Il vit parfois sa vie en rose, en bloc ça ne valait pas grand-chose. Au coin d'un bois de cinéma, au coin d'un bois de cinéma. Il neigeait sur ses aventures, il se perdait dans la nature. À la flanque, comme ci, comme ça. À la flanque, comme ci, comme ça. Les vieux refrains de la caserne, les boniments, les balivernes, le tourmentaient comme ci, comme ça. Le tourmentaient comme ci, comme ça. Tout le monde ne peut prendre un tonique sur un voilier anachronique. À la flanque, comme ci, comme ça. À la flanque, comme ci, comme ça. Il pouvait traîner ses guenilles du Cap Horn peut-être aux Antilles. Matelot de pont, comme ci, comme ça. Matelot de pont, comme ci, comme ça. Il pouvait dans un équipage croûter des gourganes pour potage. À la flanque, comme ci, comme ça. À la flanque, comme ci, comme ça.
Les trois autres titres composés en 1958 par Georges Vamparis pour Germaine Montero sur des textes de Mac Orlan sont « L'entrée du port »,« Tortuga » et « La route de Simla ». Autre collaboration ponctuelle, celle de la compositrice Christiane Verger que nous avons déjà entendue pour la chanson de Bagatelle en 1955. Elle récidive pour les Saintes-Maries de la Mer, créée par Germaine Montero en 56, puis à la radio par la jeune Francesca Solville, et plus durablement reprise par Béatrice Arnac, elle aussi amoureuse des poètes, qui l'interprète à de multiples reprises et la grave en 1964.
Mon père était prince de la Chine, je suis né au bord d'un chemin, qu'a fait choisi notre verdine pour dételer jusqu'au matin. Je devins vite une gitane, je faisais le jeu de tarot. Aux amoureux sous les platanes et aux terrasses des bistrots, ma jeunesse était souveraine dans les jeux des fêtes foraines. Je portais mon péché sur ma bouche fleurie à Marie Salomé et aux Saintes Marie. J'ai offert à Sarah tous mes péchés en fleurs, à Marie Jacobée tous mes rires en pleurs, et à Sarah la noire toutes les fleurs de ma vie.
Les thèmes des chansons de Macorlan tournent donc principalement autour des soldats, des femmes et des villes. À ce sujet, voici à présent Bernard Ascal, directeur artistique pour le label EPM, notamment de la vaste collection Poètes et chansons. Il a aussi conçu en 2013 un coffret de CD et DVD spécifiquement consacré aux œuvres de Pierre Macorlan, qu'il estime tout particulièrement.
Ce thème-là des villes, bien entendu, est une des matrices, mais je la mettrais presque à égalité avec la campagne, le mode de vie perdu, les rapports aux roulottes, aux gitans aussi, avec les Sainte-Marie de la Mer qu'a mis en musique magnifiquement Christiane Verger. Alors, Christiane Verger n'est pas intervenue beaucoup, mais quand elle intervient, c'est avec classe. Léo n'est intervenu qu'une seule fois avec La Fille des Bois, mais quand il intervient, c'est aussi d'une part avec une mélodie qui fonctionne à merveille et sur un personnage féminin qui est révolté dès le départ. C'est quelqu'un qui fait feu de tout bois, et ça correspondait tout à fait... Là, vraiment, on est dans ni Dieu ni maître, au féminin.
Donc Léo Ferré a été exemplaire, là.
Ah ben, je pense que là, il était... ça a dû fonctionner à merveille. Alors, il y a eu un projet d'un album Macorlan Léo Ferré. Enfin, il y a une lettre, en tout cas, qui témoigne clairement de du désir et du projet. Bon, après, la vie de tournée, enfin, Léo Ferré travaillait beaucoup, a tourné beaucoup, chantait beaucoup, donc peut-être ça explique que ça n'a pas pu aller plus loin.
Quand je me souviens de ma belle enfance et des boniments que j'ai entendus sur le mois de mai et ses espérances, j'étais l'oiselet piégé dans la glu. J'étais une enfant, c'est incontestable, mais une enfant moche comme je ne sais quoi. Par définition, une enfant coupable, qu'est en l'aventure le soir au coin d'un bois. Au coin de ce bois pleurait la chevêche, elle en avait l'air, mais cette garce-là, au lieu de gémir, se riait de ma dèche et de mes pieds nus bleuis par le froid. Une nuit j'aperçus aux branches d'un chêne deux ou trois pendus en guise de pavois. Des fruits ressemblaient à des fruits d'ébène, alors j'esquissais le signe de la croix. C'était le chef-d'œuvre d'un grand capitaine qui peuplait le pays de ses souvenirs. J'étais bien trop jeune pour sentir ma peine, ça ne m'empêchait pas de me rendormir.
Cette chanson remarquable, La Fille des Bois, qu'il ne faut pas confondre avec la chanson de soldat Rose des Bois, déjà diffusée dans la première émission, est donc le seul texte de Pierre Macorlan mis en musique par Léo Ferré. Elle figure en bonne place sur le disque 33 tours 25 cm de 1961. Catherine Sauvage chante Léo Ferré, que nous venons d'entendre, et que tout amateur de chansons devrait avoir dans sa discothèque. Sauvage est en effet l'une des interprètes les plus convaincantes du répertoire du grand Léo. Comme beaucoup de chansons de Macorlan, La Fille des Bois a connu à l'époque plusieurs interprètes féminines, en particulier Monique Morelli et Francesca Solville. Nous les entendrons dans la prochaine émission de cette série, que vous pouvez bien sûr réécouter et podcaster sur le site francemusique.fr à la page Tour de chant. Je remercie Dorothée Gueule à la préparation, Benjamin Vignal à la technique, Massimo Bellini à la réalisation, Aude Vassan et Marie Chauveau pour les archives de l'INA.
À réécouter sur francemusique.fr.